Bon. La Seouda ce soir est offerte pour à l'occasion de l'anniversaire de David. Je suppose qu'il va bientôt arriver.
Tu as soif ?
Donc la semaine dernière, David de Suède. La semaine dernière, on a terminé Be'ezrat Hashem Igeret Hatshuva. Après Shavuot, donc pas la semaine prochaine, c'est Shavuot, mais la semaine d'après, on commencera une autre section du Tanya. Aujourd'hui, on va faire un cours hors série sur Shavuot. Comme vous savez, le don de la Torah est arrivé en plusieurs étapes. On va faire d'abord une introduction. Ne regardez pas le texte, sinon on va être perdu. Le don de la Torah s'est passé en plusieurs étapes. C'est vrai que ceux qui ont vu le film, dans le film tout se passe en même temps. Enfin, j'ai pas vu le film, mais apparemment dans le film directement, il y a les 10 commandements et en même temps il y a l'étape de la loi. Dans la réalité, c'est pas passé comme ça. Dans la réalité, il y a plusieurs étapes. D'abord, les Bnei Israël sont arrivés au désert du Sinaï. Ils sont préparés pendant 6 jours. Le septième jour, Dieu a parlé, il a dit les 10 commandements. C'est tout. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas le reste. Il n'y a pas de table de la loi, il n'y a pas le reste. Il n'y a que 10 commandements.
La parole.
C'est tout. 10 paroles. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Après les 10 commandements, après le don de la Torah, le lendemain, il est monté au ciel. C'est le terme qui est employé, d'ailleurs on va voir ce qui s'est passé. Pour aller récupérer le reste de la Torah. Et l'étape de la loi. 40 jours plus tard, Moshe Rabbeinu va descendre avec l'étape de la loi et les autres commandements, donc les autres 601 commandements, d'accord, qui n'avaient pas, en plus les 603 commandements, en plus des 10 commandements qu'on a déjà reçus. D'accord? Vous connaissez la suite de l'histoire, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Moshe Rabbeinu, il descend. Il s'avère que le ministre a entre-temps fauté, etc. Le vaudeur, bon, après, il jette les tables, etc. En tout cas, c'est la suite de l'histoire. Ce qui est clair, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu directement les tables de la loi. Il est monté en haut, il les a cherchés pendant 40 jours.
C'est quoi le ciel, d'accord?
Très bien. D'abord, c'est quoi le ciel? Et pourquoi ça a pris 40 jours? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours?
Ah oui, c'est vrai.
Je veux dire, tu montes.
Dieu n'a pas besoin de 40 jours pour faire
ça. Exactement. Donc là, on va étudier aujourd'hui un texte de la Gemara très intéressant qu'on avait étudié une fois. Dans une veillée de Shavuot, mais on n'a pas fait dans ce contexte. Dans une veillée de Shavuot, on l'avait étudié, ça fait 3 ans, je crois, 3 ans ou 4 ans, un bout de temps. Et là, on va prendre un autre angle, on va essayer de résumer différemment. On va essayer de nous raconter ce qui s'est passé en coulisses lorsque Moshe est monté dans le ciel. Alors, c'est intéressant parce que la Torah n'en parle pas du tout. C'est la Gemara qui en parle. Et même dans la Gemara, vous allez voir que quand on va lire la Gemara, de prime abord, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, que c'est un dialogue bête. Parce qu'on va voir qu'il y a un dialogue. Et plus on va avancer dans le cours, et plus on va comprendre que derrière les nuances de la Gemara se cache un débat qu'il y a eu dans le ciel, dans les coulisses, entre Moshe et les anges. D'où le titre du cours, le débat entre Moshe et les anges. Ce débat ne s'est pas passé avant le don de la Torah, il s'est passé après le don de la Torah. Lorsque Moshe monte au ciel pour récupérer la suite du programme, les anges vont vouloir émettre un veto. Ils veulent garder la Torah. Et Moshe va devoir se défendre. Mais c'est pas Stam, ils disent non, on veut pas, non, tu l'auras pas. Il y avait des arguments. Pourquoi les anges estimaient que le meilleur endroit, l'endroit le plus adéquat pour la Torah était en haut, et pourquoi Moshe répondra, avec beaucoup de brio, que le seul endroit pour la Torah c'est en bas. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Parce que les anges ils savent de quoi ils parlent, et Moshe aussi sait de quoi ils parlent. Donc ça va aller dans tous les sens. Ok? Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va lire le texte de la Gemara, Gemara Shabbat, qui raconte l'histoire du don de la Torah. On va la lire d'abord au pshat, au sens littéral. Et après, on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé derrière ce sens littéral. Ok? On y va. Besha, Sha'ala Moshe Lamarom. Référence numéro 1. La Gemara nous raconte que lorsque Moshe est monté au ciel, Amru Malachei Hasharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les anges dirent à Dieu, Ribbono Shel Olam, maître du monde. Donc Moshe il est monté au ciel, pourquoi?
Pour
récupérer l'état de la loi.
Et les mitzvot.
Pour récupérer et le reste des mitzvot. Les anges dirent à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, maître du monde. Maleilu Desha Benenu. Que fait un humain parmi nous? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait ce terrien parmi nous?
C'est du racisme.
D'accord. À Marlem, il leur répond, Dieu leur répond, comme si qu'il ne le savait pas. Les Kabel Torah Ba. Il est venu pour recevoir la Torah. C'est pas la science-fiction, hein, c'est une vraie histoire, ce que je vous raconte. Donc Dieu répond aux anges, dit ben il est venu pour recevoir la Torah.
Ça, c'est la première fois qu'il monte là.
Non, première fois, oui, première fois qu'il monte, mais pour recevoir la Torah. Alors Amrou les Fanav, les anges ont dit à Dieu, Hamouda, Gnouza, ce qui est chéri est dissimulé pour toi, que tu le gardes depuis avant même la création du monde. Il parle de la Torah. Atam evakesh litna le basar vadam. Tu veux le donner à un être de chair et de sang? Ça veut dire, en d'autres termes, ce que les anges disent. Ils disent, depuis tout le temps, on savait qu'il y avait un trésor que tu cachais, que tu montrais à personne, et on savait que ce trésor-là, le jour où tu sortiras, sera extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Tu sors ce trésor pour le donner à qui? À des terriens. Mais les anges disent, mais attends, t'es notre à la Shamazaltom. T'es notre à la Shamaim. Les anges, ils disent, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit pardon à Dieu, t'es notre à la Shamaim. Ça veut dire, conserve ta splendeur dans les cieux. C'est ce que les anges disent. Alors, qu'est-ce que Dieu répond à ça? Donc là, il y a une attaque en règle. Maintenant, l'attaque, c'est quoi? C'est, pour l'instant, on ne comprend pas quel est le fond de l'attaque. Ils disent, mais Dieu, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. De quel droit ils disent qu'on doit la garder? On verra dans la suite du cours. En tout cas, pour l'instant, les anges disent à Kadosh Baruch Hu, ce trésor que tu gardes depuis tellement de temps, pourquoi tu veux le donner à des êtres humains? Donne-la nous, conserve ta splendeur dans les cieux, comme c'est écrit dans le psaume 8. Le psaume 8 décrit justement le discours des anges devant Akadosh Baruch Hu lorsque Moshe est monté pour chercher la Torah. Alors, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu dit à Moshe, Arzer lahem tshuva. Réponds-leur. Donne-leur une réponse. Donc Dieu ne répond pas. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Amar lefanav, Moshe répond. Ribbono shel olam. Alors c'est intéressant parce que Moshe Rabbeinu, il fait comme un bon avocat. Il va pas parler aux anges directement.
Il s'adresse à Dieu.
C'est comme les avocats, tu vois. C'est-à-dire, il s'adresse au juge, tu vois, mais en vérité, il est en train de viser l'autre. C'est comme ça que ça marche.
C'est comme s'il était dans une cour.
Exactement. Tu as une cour, tu t'adresses au juge, mais en fait, tu t'adresses à la personne qui est en face de toi. Mais tu vas pas lui dire directement. Tu t'adresses au juge. Donc Amar lefanav, il a dit devant lui, Ribbono shel olam, maître du monde. Torah shatanotelli maktivba. La Torah que tu me donnes. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit, Anochi Hashem Elokecha Asher Otzitira Meretz Mitzrayim. Le premier commandement qu'on vient de recevoir, il déclare, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors il leur pose la question. Il leur dit, Amar Lahem le Mitzrayim Aratem. Moshe maintenant se tourne vers les anges et il leur dit, étiez-vous en Égypte? Les pharaons, je t'abattem. Avez-vous été asservis? Au pharaon. Torah, lamate lachem. Que feriez-vous donc de la Torah? Et il continue. Il dit, on va prendre les autres commandements. Shuv maktivba. Qu'est-ce qu'il écrit dans la suite des commandements? Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras point d'autre Dieu. Il dit, pourquoi? Ben agoim atem shrim shavidim avodazara. Êtes-vous parmi les nations qui servent avodazara? En d'autres termes, ça ne vous parle pas, ça ne parle pas de vous?
Oui, oui, je suis pas concerné.
Non, Moshe a pris des exemples
c'est un enfant,
qu'il connaissait parce qu'il avait déjà reçu les 10 premiers commandements. Donc comme il avait déjà reçu, il a dit juste avec les 10 commandements que j'ai reçus, on comprend parfaitement, aisément,
que c'est pour nous.
C'est pour nous. Je suis l'Éternel, celui que vous avez sorti d'Égypte. De qui il parle? De nous. Vous n'étiez pas en Égypte, vous n'étiez pas chez Pharaon. D'accord? Et il dit ensuite, tu n'auras point d'autres dieux. Pourquoi vous avez d'autres dieux en haut? Ça parle bien de gens qui sont sur terre, qu'il y a des cultures dans lesquelles il y a d'autres divinités, pseudo-divinités. Et donc, il faut prévenir de ne pas les suivre. Et pareil, il continue. Il prend comme ça tous les commandements. Et il dit, c'est quoi le commandement suivant? Il dit, tu vas te reposer, six jours tu vas travailler, et le sixième jour tu vas te reposer. Travaillez-vous pour avoir besoin de vous reposer. Et ensuite, les commandements suivants, c'est quoi? C'est ne pas voler. D'accord? Le commerce existe-t-il parmi vous? L'autre commandement, c'est quoi? Tu honoreras ton père et ta mère. Avez-vous un père et une mère? Etc. Ensuite, l'autre commandement. Tu ne seras pas jaloux. D'accord? Tu n'envieras pas le terrain, la femme de ton prochain. Kinaïesh benechem. Possédez-vous, y a-t-il la jalousie entre vous? Yetzaraïesh benechem. Est-ce qu'il y a un mauvais penchant? Donc, c'est les questions, toutes ces questions-là, c'est la rhétorique. Monsieur Benita, deux secondes. Benita. C'est ça. Laisse-moi finir le raisonnement. Et donc ça c'est la rhétorique que Moshe Rabbeinu dit aux anges. Et tout de suite, miyad hodulu la kadosh baruch hu, tout aussitôt, les anges donnèrent raison à Dieu. Ils disent, c'est vrai, effectivement, la Torah appartient aux êtres humains.
Ils donnaient raison à Moshe.
D'accord? Alors, quand on lit ce, cette histoire, franchement, on a l'impression que c'est une histoire, bon, c'est un peu mignon, c'est sympathique, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débat. Stab, il tient en haut, il voulait pas laisser Moshe partir. Il dit, qui va là? Il dit, avec la Torah, etc. Il dit, non, c'est à moi, ça m'appartient, etc. Il répond, et après, c'est bon, on laisse partir. Évidemment, on n'est pas dans un débat de quartier ici, c'est un débat très sérieux. On est dans une discussion avec des anges. Les anges ont très bien entendu les 10 commandements. Ils ont entendu que dans les 10 commandements, c'est écrit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Ils savent très bien cela, les anges. Le fond de la question, c'est que les anges ne sont pas simplement en train de dire à Dieu, on a envie de garder la Torah. Ils ne sont pas en train simplement de dire à Dieu, oh, comment une si belle Torah, tu l'as fait descendre. Ils sont en train de remettre en question la relation entre la Torah et la terre. Et pas seulement ça. Les anges sont en train d'attaquer Dieu en justice, par Moshe. Mais écoutez bien. Ils sont en train de dire à Dieu, a priori, la Torah nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on a une raison halakhique de penser que la Torah nous appartient. Ils sont en train d'attaquer Dieu. Pourquoi? Alors on va lire ensemble un commentaire du Chizkuni. Le Chizkuni, c'est Rabbi Chizkia ben Manoach, qui a vécu environ en 1240 en France ou en Provence. C'est pas loin d'ici. On est là. Et le Chizkuni dit comme ça. Le Chizkuni va nous donner un mot. Et ce mot va être la base de notre cours. Un mot. Dans son commentaire sur la parasha Terouma, il dit, référence numéro 2, Amru Malaché Acharet, l'argument des anges en disant à Dieu, laisse la Torah chez nous, c'était Mikoar Matsranout sur le principe du voisinage.
J'ai oublié les boissons.
D'accord? Alors voilà. Le Chizkuni dit un mot. Un mot. C'est quoi? C'est qu'apparemment l'attaque était sur le principe du voisinage. C'est quoi le principe du voisinage?
Du voisin. C'est quoi le voisin qui avec qui?
On va voir. Attendez, monsieur Benita. Si vous voulez la suite, regardez ce qu'il y a écrit après. Tout est là. D'accord? C'est quoi l'histoire du voisinage? Rambam, David, pas grave, laisse. Non, laisse.
Non, c'est bon, il y a de l'eau.
David, c'est pas grave. Travaille, c'est déjà. Viens, assis-toi. Assis-toi.
Il y a qui c'est une voiture? Le
c'est pas grave. Il vient, David Tutu, ce soir?
Il vient.
Bah, quand il viendra, il nous sortira une bouteille, t'inquiète pas. Installe-toi, t'inquiète pas, il arrive. Alors, le Chizkuni nous dit un mot. Quel mot? Il nous dit en fait, l'argument des anges était basé sur un argument. Matsranout, le voisinage. Matsranout, Metzer, Matsranout. C'est quoi le dîme du voisinage? En fait, c'est Maïmonide qui l'explique. Non, Maïmonide ne fait pas le rapprochement avec notre l'histoire de Shavuot. Maïmonide explique le principe du voisinage. Mais avec le principe du voisinage, on va comprendre quel était l'argument. On va lire ensemble. Juste en face. Rambam ilchot shrenim. Maïmonide, loi du voisinage. Amocher karka shelo leacher. Celui qui vend son terrain à une autre personne. Yesh la chavero she ubetzad ametzer shelo. Son voisin peut payer ou les salek auto, donc il peut payer et lui reprendre le terrain. Mishum shenemar, car il est écrit, Vasita hayashar ve'atov. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux de Dieu. J'explique ce que ça veut dire. Il y a un verset dans la paracha Va'etranan qui dit comme ça. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu n'es pas en infraction, tu n'as pas fait de faute, mais ce que tu as fait, c'était pas correct. Et la Torah te dit, il faut t'efforcer d'être correct. Exemple. Imaginez que j'ai un terrain. J'ai un terrain, je sais pas, 10 hectares. Ok? Je vends ce terrain à un monsieur qui va acheter un terrain dans lequel je plante des choses, un grand champ. Je vends ce terrain. Et je vends ce terrain à une tierce personne. Et il y a le voisin limitrophe qui apprend, qui dit, mais t'as vendu ton champ. Et moi, ça m'intéresse d'avoir le champ. Pourquoi? Parce que je voulais agrandir mon champ. J'avais un champ de 5 hectares, avec le tien, ça aurait fait 15. Ça m'intéresse. Pourquoi tu ne m'as pas proposé? Alors bon, peut-être je lui réponds, je te supporte pas, ou j'ai pas envie de te proposer, etc. Enfin, je vends à qui je veux. Qu'est-ce que te dit la halakha? La halakha te dit, le voisin limitrophe a le droit d'aller voir, plus que ça, a le droit d'aller voir l'acheteur qui a déjà acheté le champ, lui rembourser ce qu'il a payé, le mettre dehors et prendre le champ. Pourquoi ? Oui, il a le droit. Parce qu'il est écrit, Ve'asita hayashar ve'atov, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Alors je vais expliquer quelle est la raison. Ce n'est pas exactement le droit de préemption. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose.
Non, il n'y a pas de
mérite. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah non. Droit de préemption, c'est que, par exemple, lorsque tu es dans un... Voilà. Droit de préemption, c'est que lorsque tu habites un appartement et que ton propriétaire veut le vendre, il doit te le proposer à toi en premier. Mais là, c'est pas de ça que je parle. Là, je parle du voisin. Le voisin qui vend son appartement, il doit d'abord te le proposer à toi. C'est plus fort, ça. Mais je parle pas d'appartement pour l'instant. Vous verrez pourquoi je parle pas d'appartement. Je parle de terrain. Alors, quelle est la logique derrière cette halakha? La logique est très simple. C'est que, tu peux rendre service à quelqu'un facilement, sans le déranger. Et en fait, comme explique les commentaires te disent, le plus difficile dans un métier, c'est la main d'œuvre. Ça veut dire que quand, par exemple, tu as 5 hectares ici et 10 hectares à 10 km, ça veut dire que tu dois avoir deux séries d'employés, un qui est là et l'autre qui est là. Alors que si tu arrives à grouper 15 hectares ensemble, tu groupes le travail et tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que d'abord, le patron peut être au même endroit, et ça veut dire qu'il peut laisser l'outillage au même endroit, tout est au même endroit. Donc, peut-être pour toi, ça change pas grand-chose. Parce que pour toi, tu dis, moi j'ai vendu 10 hectares, j'ai vendu 10 hectares, j'ai vendu à l'un, j'ai vendu à l'autre, ça change rien. Mais pour l'autre, pour l'acheteur, pour le voisin, ça lui aurait changé la vie. Au lieu d'avoir un champ là, tu lui as changé la vie. On le voit ça, que la manutention, ça coûte très très cher. Ok. Alors, dit le Chizkuni, il dit, peut-être que c'est ça, c'est pas peut-être, après lui, il avance, il dit que c'est ça l'argument des anges. Les anges sont en train de dire à Dieu...
On avait un droit prioritaire.
Bah oui, on est prioritaire. Pourquoi ? Parce que la Torah, Moshe Rabbeinu, il est venu la chercher au ciel. Ça veut dire qu'elle était où ?
Au ciel.
Elle était au ciel. Nous, les anges, on est où ? On est au ciel. Donc toi, Dieu, tu prends la Torah, qui était chez nous, qui était dans notre domaine, qui était chez nous, tu décides de la vendre. Il n'a pas vendu la Torah. On va voir. Bon, en tout cas, tu décides de la passer. Donc les anges vont dire à Kadosh Baruch Hu, on est prioritaire. Pourquoi on est prioritaire ? Parce qu'on est limitrophe.
Lesquels ces gens ?
D'accord.
On connaît nous les anges, mais...
Tous les anges.
Ils sont en mission.
Tous les...
Réfléchissent.
Bien sûr qu'ils réfléchissent. Ils ont une volonté propre, les anges. Ils ont un libre arbitre. Limité. Bien sûr qu'ils ont un libre arbitre. Tous. Ils sont... C'est pas des robots. Les anges y parlent. Donc ils ont parlé à Dieu. Et leur argument tient la route. Donc apparemment, c'est pas seulement un argument de fond. C'est un argument de forme aussi. C'est-à-dire, d'abord, il y a une question de fond. Il pose la question à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu envoies ta Torah tellement haute à des terriens ? Quel rapport ? Ok ? Mais à part ça, il y a une question de forme. Ils disent, ta Torah, tu ne l'as jamais montrée à nous. Elle était chez toi, tu ne l'as jamais montrée à nous. Tu décides de la prendre, l'envoyer au terrien. On est prioritaire, on est limitrophe.
Donc ça veut dire qu'ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans.
Bien sûr, mais
ils réclament.
Mais ils la veulent. Parce qu'ils disent, on a appris que tu vas la. Mais ils la veulent.
Ils veulent quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Bien sûr. Ils savent qu'il y a un trésor. Ils savent qu'il y a un trésor. Ils disent, puisqu'on est limitrophe au trésor, on est prioritaire. Non, c'est pas jaloux. C'est pas qu'ils ont jalousie. Ouais. On est prioritaire.
C'est le terrain, quoi.
Et rappelez-vous la halakha qui te dit que quand tu es prioritaire, même si la vente a déjà été effectuée,
tu rembourses.
On rembourse et on reprend. Donc les anges disent, ça nous change rien que la Torah a déjà été donnée. Pour nous, on a vu ce qui est écrit dans la Torah, on veut cette Torah. On veut la garder pour nous.
Ça n'a pas de prix.
Hein?
Ça a pas
bon.
De
prix. Alors, ça c'est l'argument.
On ne peut pas rembourser.
Maintenant, on va essayer de donner une réponse aux anges. Qu'est-ce qu'on répond aux anges? Qu'est-ce qu'on répond aux anges? Alors, dans différents livres qui ont été écrits au fil des générations, d'accord? Donc ça, cette explication a été ramenée par beaucoup de commentateurs, de plusieurs milieux, chez les Ashkenaz, chez les Sépharades, etc. Si vous voulez des références, vous avez dans la... Vous avez deux secondes. Vous avez en bas de la page B, vous avez une liste partielle. Vous avez Roche David, Echazé David, Yuchida, bon, c'est un peu flou là, Mahelev, Ritavot, Mogador, Maroc... Sfat Emet, Gour, Pologne, Lituanie, d'accord, etc., etc. Il y a beaucoup de commentateurs qui parlent de ça. Beaucoup de commentateurs qui s'arrêtent sur la question et qui essayent de dire, finalement, qu'est-ce qu'on répond aux anges? Parce que les anges ont un bon argument.
Oui,
nous sommes limitrophes. Qu'est-ce qu'on répond aux anges? Alors, je vais expliquer les différentes réfutations que donnent les commentateurs pour expliquer ce que Moshe pourrait répondre aux anges. Pour leur dire pourquoi, même s'ils sont limitrophes à la Torah, même s'ils sont limitrophes, ils ne sont pas prioritaires. Donc on va terminer la référence numéro 3, après on aura droit aux questions de M. Benita et aux questions de tous ceux qui veulent. D'accord ? Donc, rappelez-vous, on a ici un argument. L'argument est très simple. Les anges disent, nous sommes limitrophes, nous sommes voisins de Dieu, donc nous sommes prioritaires pour la Torah. D'accord ? Qu'est-ce qu'on répond aux anges ? Plusieurs façons comment on va leur répondre. On va avoir ici 6 réponses. 6 réponses. A, B, C, D, E, F. Vous avez devant vous un tableau. Mais chacune de ces réponses, on va montrer qu'il y a un problème dans ces réponses. C'est-à-dire toutes les réponses vont être bonnes, mais il y aura un problème dans toutes ces réponses. Dans toutes ces réponses, ça va être, si vous voulez, une réfutation pour dire que l'argument des anges n'est pas bon. C'est comme, si vous voulez, c'est des réfutations, comme un débouté. Comment il fait un avocat ? Tu lui avances un argument, l'avocat va te montrer que l'argument que tu avances ne tient pas la route. Maintenant, il n'est pas en train de dire que ce que tu dis est faux. Mais dit, ce que tu me dis, ça ne tient pas la route parce que, voilà, il y a un problème. Il ne dit pas, t'as raison, t'as pas raison. C'est un autre problème, ça, t'as raison, t'as pas raison. C'est pas mes affaires. Bon, un avocat qui va défendre, par exemple, rien à voir, mais qui va défendre un meurtrier. Les faits sont avérés. Il a tué, etc. C'est un meurtrier. L'avocat ne peut pas venir et dire, il n'a pas tué. Maintenant, ce que l'avocat peut venir, il peut trouver un vice de forme. Il peut trouver un vice de procédure.
Dans la procédure. Ouais.
Bon. Donc là aussi, il faut qu'on trouve un vice de forme. Il faut qu'on explique pourquoi, en fait, l'argument des anges ne tient pas la route. Donc en fait, il faut qu'on rentre maintenant dans la halakha. C'est intéressant parce que la première partie de notre cours, c'est vraiment un cours halakhique. Un cours de droit, quoi. Pour essayer de comprendre dans quel cas le droit de voisinage ne s'applique pas. Et on va essayer d'appliquer ça par rapport aux anges. Donc là, constamment, on va s'imaginer constamment un voisin terrien. Et on va s'imaginer par rapport aux anges et expliquer pourquoi ça ne marche pas. Vous êtes prêts ? On y va. Alors, nous avons d'abord une première piste. Voilà la première piste. Pour expliquer pourquoi le loi du voisinage ne s'applique pas. Première piste, le Shulchan Aruch nous dit que je suis au petit a. La loi du voisinage ne s'applique que sur les terrains. Ça veut dire sur
ce qui est
les biens immobiliers. Aval, mais mitaltelin, endi matzranut. Mais les objets mobiliers, tout ce qui est mobilier, n'a pas de din de bar mitzra. Ça veut dire comme ça. Imaginez par exemple que j'ai un tracteur dans mon champ, que je vends mon tracteur, et que le voisin dit, mais pourquoi tu l'as vendu à monsieur un tel, moi je voulais le prendre parce que c'est à côté de moi. Il n'y a pas la loi du voisinage sur un objet mobile.
Il n'est pas fixe.
Parce qu'il n'est pas fixe. Par contre, un terrain, la logique est très simple. C'est quoi la logique? La logique, c'est parce que quand tu as un terrain ne se déplace pas. Donc le terrain, tu dis, ton terrain, il peut être que là, tu ne peux pas l'amener. Par contre, quand c'est un tracteur, quand c'est un outillage, tu peux l'amener. Moi, je l'ai vendu à celui que je voulais, je peux l'amener. Si tu veux un autre, tu peux l'amener. Bon. Donc, on va essayer de se poser la question maintenant. Est-ce que la Torah est un terrain?
Non.
Est-ce que la Torah est un terrain?
Si, puisqu'on l'a amené du ciel à la terre, c'est que c'est un terrain.
Dis-moi le terrain depuis quand?
Ben oui, elle logeait
vous
au ciel.
Vous n'avez pas compris ma question.
C'est un objet,
Est-ce que la Torah, c'est quelque chose de mobilier? C'est mobile?
Mobile.
C'est flexible? Ou est-ce que la Torah, c'est quelque chose
c'est
de fixe
en même temps,
pas les deux, ou l'un ou l'autre, ils sont les deux.
Il y a l'objet, la Torah, c'est la Torah, il y a aussi le...
On parle des lois, c'est fixe.
La Torah, c'est toujours la même chose.
Alors, tu parles quelque chose de fixe.
Alors, dans ce cas-là...
Bon, alors, deux secondes. Je vais expliquer. Pourquoi la Torah n'est pas fixe? Parce que la Torah se déplace d'abord. Du fait même que la Torah était en haut, elle se déplace en bas, un terrain ne peut pas se déplacer. Le propriétaire se déplace, pas le terrain. D'accord? En plus de ça, je veux dire, la Torah a été créée, le monde a été créé pour la Torah et la Torah n'a pas été créée pour le monde. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. C'est que la Torah, par définition, se déplace. La Torah se déplace. Donc si la Torah se déplace, c'est pas un terrain. Donc si c'est pas un terrain, la loi du voisinage ne s'applique pas. Donc voilà déjà une première réfutation qu'on va donner aux anges. C'est pas mal. Les anges nous disent on est voisins. J'ai eu, je veux bien. Vous êtes voisins, peut-être du terrain de Dieu. Mais vous n'êtes pas voisin des objets de Dieu. Or, la Torah est un objet de Dieu, puisqu'il se déplace. Donc l'objet, il est là, il est là-bas. Sur un objet, il n'y a pas la loi du voisinage.
Oui, mais en même temps, il y a en même temps une notion, il est au ciel, il est
alors,
à la terre.
Donc, ça ne change pas. Il est dans même si lieu. L'objet est rare, et que c'est le seul objet au monde, la loi du voisinage ne s'applique pas sur un objet mobilier. C'est le principe.
C'est le principe du tracteur.
Oui, donc, ça veut dire qu'on te dit, même si c'est un tracteur unique au monde, et qu'on ne peut pas le trouver ailleurs, on dit, tant que c'est un objet mobile, il n'y a pas de loi de voisinage. Parce que par définition, le voisinage ne se passe que dans l'immobilier. Pas dans le mobilier. Oui. Le mobilier ne veut rien dire dans le voisinage. Ça veut dire que ce tracteur n'est pas ton voisin. C'est le terrain sur lequel le tracteur est posé qui est ton voisin.
Qui c'est qui plaide pour nous là? C'est bon Dieu ou c'est bon Dieu?
Donc là, on va essayer de comprendre ce que Moshe Rabbeinu pourrait répondre aux anges. Ok? Donc les anges disent, nous sommes voisins, nous sommes prioritaires. Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond, la loi du voisinage ne s'applique que sur des biens. Immobilier, pas sur les biens mobiliers. Or, la Torah est un bien qui bouge. Bon, première hypothèse. Deuxième possibilité. On va passer au petit b. Le Shulchan Aruch nous dit, Hanoten matana en badina metzer. Celui qui donne un cadeau, la loi du voisinage ne s'applique pas sur un cadeau. Ça veut dire, concrètement, imaginez par exemple que je donne un cadeau à quelqu'un. Je donne un cadeau. C'est-à-dire, j'avais un terrain et je donne un cadeau à quelqu'un. C'est un terrain. Je donne un cadeau à quelqu'un. Et qu'après, il y a un voisin qui arrive et qui dit, mais attends, j'ai appris que t'as donné ce terrain en cadeau à quelqu'un. Je suis pas d'accord. Moi, je suis prêt à te le payer. Donc, tu dis, non, moi, j'ai rien payé. Moi, c'est ce terrain que je veux, je le reçois en cadeau. Quel est le dîn? Le dîn, il t'explique que dès que c'est un cadeau, les lois du voisinage ne s'appliquent pas. Pourquoi? Parce qu'un cadeau, on rentre dans une dimension qui n'a rien à voir avec le commerce. Tant que tu es dans un principe de business, de commerce, là je peux dire, commerce, business is business, au lieu de vendre à l'autre, puis vendre à moi, je te paye le même prix. C'est méchant ce que tu as fait. Tu m'as fait perdre du temps pour rien, tu fais perdre de l'énergie, tu fais perdre de l'argent pour rien. Ça je comprends. Mais en fait, le principe est qu'un cadeau, comme explique le Beit Yosef dans Shulchan Aruch, il dit un cadeau, c'est un cadeau que monsieur A donne à monsieur B, et il veut lui donner ce terrain spécifique. Et tu peux pas discuter avec ça. Tu peux pas dire, non, mais attends, j'ai un autre terrain, la même chose. Non, je voulais donner ce terrain à ce monsieur. Donc, le cadeau est prioritaire. Or, la Torah...
Mais on transgresse pas le
pas du tout. Commandement. Non, pas du tout. Pourquoi tu veux que je transgresse? Je transgresse dans le cas où c'est du business, je pouvais le vendre à monsieur A, je l'ai vendu à monsieur B. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est un cadeau. Dans un cadeau, au-delà de la valeur foncière, il y a la valeur vénale. La valeur sentimentale. Et la valeur sentimentale, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, je voulais donner ce champ à mon fils. C'est ce champ que je voulais donner. Ce champ. Donc la loi du bar mitzvah.
Mais le fils, il a priorité, quoi qu'il arrive, non?
On va voir. Même seconde. J'ai pas parlé des enfants encore. Ça va venir. Pour l'instant, ce que je veux dire déjà, c'est que dès que c'est un cadeau, la loi du voisinage ne s'applique pas. Or, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu a donné 3 cadeaux au peuple juif. C'est quoi les 3 cadeaux? La Torah, la terre d'Israël et le monde futur. Donc la Torah est définie comme un cadeau. Donc si la Torah est définie comme un cadeau, les lois du voisinage ne s'appliquent pas sur un cadeau. On est d'accord? Je vais continuer, je vais résumer, après, vous inquiétez pas. Ensuite, on a encore petit c, troisième possibilité. C'est le Shita Mekoubetet qui dit « Din ben hametzer enu mevanash el notel » La loi du voisinage ne s'applique pas aux enfants du donneur. Ça veut dire, imaginez par exemple que je vends mon champ à mon fils, j'ai vendu à mon fils, je l'ai donné ou je l'ai vendu à mon fils, étant donné que c'est un proche, la loi du voisinage ne s'applique pas pour les autres voisins. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dès qu'on est rentré dans une notion de famille, du coup, la famille passe avant le voisin.
Bien qu'il y ait de l'argent derrière.
Or, les Bnei Israël, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Comme il est écrit, Banim, Atem, Lachem, Elokechem, dans la paracha Ré'e, il est écrit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc si on est les enfants de Dieu, les anges ne sont pas appelés les enfants de Dieu. Donc si on est les enfants de Dieu, donc on est les proches de Dieu. Donc si on est les proches de Dieu, un proche est toujours prioritaire par rapport aux autres. On est d'accord? Donc voilà encore une autre façon de repousser l'argument des anges. Ça c'était la troisième façon.
Mais tu vois, comment ça se fait qu'on prend toutes ces lois en considération? Comment elle a été créée pour les hommes, la Torah?
D'où tu sais que la Torah est écrite pour les hommes? C'est ça l'argument des anges.
Les anges, ils n'ont pas ça.
Mais non.
Bah alors, donc, c'est la vie que là, on n'a pas pour les anges.
Ça, c'est l'argument des anges. Les anges, on n'est pas d'accord.
Des lois matérielles. Les anges, ils sont.
Ça, c'est un autre problème. Ça ne change pas, ça. Les anges, on était voisins, on passe avant. Maintenant, même si moi j'avais une 4L et toi t'avais. Non, ça ne change pas. Même si moi j'avais une 4L et toi t'avais une Porsche, je suis voisin, je passe avant. Une Ferrari, pardon. D'accord.
Et nous, on comprend pas qu'on puisse utiliser les mêmes lois pour les anges que pour les hommes.
Mais qui pourquoi tu parles de loi?
Bah, c'est l'endroit de dire.
Moi, j'ai pas parlé de loi. Toi, t'as parlé de loi. Moi, j'ai pas parlé de loi. Moi, j'ai parlé de Torah. La Torah, c'est les trésors, c'est les secrets d'Hachem. Les anges disent, on a appris qu'il y a des grands secrets. Tout d'un coup, il y a un étranger qui vient, qui prend tout, qui rafle tout. C'est qui celui-là? C'est qui cette espèce rapportée? D'où il sort?
La loi du voisinage, c'est bien la loi.
Oui, mais t'as pas compris. La loi du voisinage, c'est qu'en fait, le Chizkuni explique que la base argumentaire des anges était de dire pourquoi on est prioritaire aux êtres humains, parce qu'on est voisins. Donc il faut répondre à cet argument. Il faut répondre pourquoi, même s'ils sont voisins, ils sont pas prioritaires.
Mais cet argument, ils l'ont pris d'où? De la Torah.
Bien sûr qu'ils prennent la Torah. Et alors?
Mais ils n'avaient pas accès à la Torah. Ils ont pris l'argument de la Torah.
Mais l'argument est bon.
Je comprends, mais il faut avoir la Torah. Et s'ils n'ont pas eu la Torah, comment ils peuvent utiliser l'argument?
L'argument est logique.
Oui, je comprends, mais tu comprends ma question.
Imagine-toi que tu as un trésor chez toi à la maison, que tu gardes, que tu ne montres jamais à tes enfants. Et tout d'un coup, il y a une pièce rapportée qui arrive, quelqu'un qui ne sait pas d'où il sort, un étranger qui arrive, il vient, il rentre, tu l'ouvres la porte, seconde, tu l'ouvres la porte, tu l'ouvres la salle des trésors, tu lui donnes le trésor, il repart avec.
Yves, c'est très simple ta réponse.
D'accord.
Pendant que les anges réclamaient, Moshe écrivait. La réponse. Moi, tu réclames, tu réclames
la parole. Non, c'est ça, comment tu peux utiliser un argument de la Torah alors que tu n'as pas la Torah? Oui.
Mais c'est surtout. Non, mais leur argument. Leur argument, je comprends votre question, mais leur argument n'est pas basé sur une halakha, un shulchan aruch. Leur argument est logique. C'est un argument logique qu'ils ont. Ils disent, je comprends pas. On a la Torah qui était notre voisine. Tout le temps, Hachem, il nous parlait de la Torah. Il dit, ah, j'ai un trésor, j'ai un trésor, j'ai un trésor. Tout d'un coup, il y a un étranger qui arrive, il la prend et il disparaît avec.
Pas le fond de ce trésor. Ben, on a un trésor, on sait pas ce qu'il y a dedans.
Ben, bien sûr.
Les malachim, ils savaient pas ce qu'il y a dedans.
Mais les malachim, ils ont entendu les commandements. Tout le monde a entendu les commandements. Dès qu'ils ont entendu, les commandements et ce qui se cache derrière. Ils ont donné les trésors de la Torah, les secrets de la Torah qu'il y a derrière. On dit quoi? Des secrets comme ça, on les donne? On est prioritaire. Un argument, tiens la route. Pas de question dessus. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Moi, je trouve que c'est pas enfin,
il faut, monsieur, vous savez, quand on fait un cours comme ça, il faut pas réfléchir de
au premier degré.
Au premier degré.
C'est pour ça qu'on en vient.
D'accord. Il faut apprendre.
Bien sûr.
Il faut apprendre justement. Mais c'est comme dans la Gemara. Il faut toujours apprendre à détacher son esprit.
Bien sûr.
C'est-à-dire à monter d'un cran, avoir un sens figuré. Au sens figuré, l'argument est bon. Maintenant, oublions que c'est un ange. Qu'est-ce que c'est un ange? Au sens figuré, il y a un très bel argument. Les anges, disent on est prioritaire. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Oui. Moi, pour moi, c'est un sentiment de jalousie des anges.
Non, pas du tout. Non.
On vit dans les cieux. On vit au contact d'Akadosh Baruch Hu. On est des êtres divins supérieurs à l'homme.
Non.
Pas du tout.
Non, ils sont pas supérieurs.
Non, ils ont pas dit ça.
Non, mais on sent bien qu'il y a eux.
Mais non. Vous n'avez pas vu leur argument. C'est pas ce qu'ils ont dit. Relisez la référence, Laurent, vous verrez. Ils ont jamais dit ça. Non, mais ils ont jamais dit ça. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit une chose très simple. Ils ont dit, t'avais un trésor caché que tu as. Soit tu le donnes à nous deux. Tu te débrouilles, mais tu peux pas le prendre et le donner aux hommes et nous on a rien. C'est pas possible.
Excusez-moi.
Ah oui.
Bien sûr.
Ah oui, on peut pas
utiliser un proverbe.
Parce que n'oublions pas.
Tu défends qui, toi? C'est quand les hommes ou les anges?
C'est quoi Matan Torah?
Je défends ni l'un ni l'autre. Je ne comprends pas le raisonnement des rabbes qui prend un raisonnement basé sur le voisinage. Moi, j'ai l'impression que c'est des anges. Et en fait, moi, il y a un proverbe qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression que les anges disent en gros à Dieu. Tu es en train de donner de la confiture aux... C'est des êtres. C'est quoi, c'est... Nous, on est des êtres spirituels.
Ça,
est...
c'est encore une autre démarche.
Moi, je ressens je... ça.
Non, peut-être, on verra après aussi. Peut-être qu'il y a un peu aussi de ça. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que David a dit aussi, dans d'autres mots. Vous avez raison. Peut-être on verra après un peu de ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, il y a un argument à la RIC. Comprenez, quand tu es devant le juge, on n'est pas en train de voir la moralité du dossier. Est-ce que c'est moral ou pas moral? On pose une question. On a un problème, on dit voilà. Il y a un problème légal dans ce qui s'est passé ici. Et les anges estiment qu'il y a un problème légal. Il y a un problème de fond, un problème de forme. Ils disent, la Torah était notre voisine. Dieu, tout d'un coup, il décide. Il la prend, il la donne, il ne lui laisse rien. On se sent grugé. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, on a dit encore une fois que les anges, l'argument des anges, c'est qu'ils sont voisins. Donc, ils sont prioritaires. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Plusieurs hypothèses. Premièrement, on peut dire, la Torah n'est pas un terrain. Or, la loi du voisinage, c'est plus que sur les terrains. Deuxièmement, la Torah est un cadeau de Dieu. Or, la loi du voisinage, ça ne veut pas si on a donné son terrain en cadeau à quelqu'un. Troisièmement, nous sommes les proches et les enfants de Dieu. Or, la loi du voisinage ne s'applique pas quand on a donné le champ, à un enfant. Quatrièmement, ça c'est une belle réponse aussi, le Midrash nous dit, Moshe ish ha-elokim, le petit dé, mechetsio ulmata ish, mechetsio ulmata ha-elokim. Moshe, sa moitié inférieure est homme, et sa moitié supérieure est Dieu. Ça veut dire que Moshe, lui aussi, est voisin de Dieu.
Ah oui, pour le coup.
Ah oui, parce que Moshe, il est, si vous voulez, mi-homme, mi-ange. Donc Moshe Rabbeinu, quand on lui dit... quand on lui dit, t'es pas voisin, il dit, si, je suis voisin comme vous. Je suis là, moi aussi.
Oui, de temps en temps, il séjourne là-haut.
Parce qu'encore une fois, dans quel cas la loi du voisinage s'applique, c'est quand on a vendu le champ à une personne qui n'est pas voisin. Mais Moshe est aussi voisin. Alors après, tu vas dire, il y en a un qui était voisin, qui était à 100 mètres, un autre voisin qui était à 150 mètres, ça change rien, ça.
En même temps, elle n'est pas adressée qu'à Moshe.
Exactement. Oui, mais je comprends. Mais Moshe est le représentant.
Il est porte-parole.
J'entends. Maintenant, plus que ça. Il y a aussi encore d'autres réponses qu'on va donner, sur lesquelles on va pas trop s'arrêter, qui disent que les Bnei Israël vont dire aux anges, on va dire l'argument suivant. Vous, les anges, vous êtes intéressés par quel aspect de la Torah? On est bien d'accord que les anges ne sont pas intéressés par le sens littéral de la Torah. ça les intéresse pas, ça ne leur parle pas. Par quoi ils sont intéressés? Ils sont intéressés par l'aspect ésotérique, par l'aspect profond de la Torah. C'est les secrets de la Torah qui les intéressent. Donc on comprend leur argument. Sauf qu'il y a un principe à la rique, c'est le petit e, qui dit « Machar kol nechassav le'echad en din balametzer » que si une personne vend tous ses biens à une seule personne, la loi du voisinage ne s'applique pas. En d'autres termes, imaginez par exemple que j'ai plusieurs terrains, tous à côté. Tac, 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 tac. J'ai quatre terrains à côté.
Plusieurs parcelles.
Plusieurs parcelles de terrain. Et il s'avère que je décide de vendre mes terrains. Il y a un entrepreneur qui me dit, je t'achète tous tes terrains. Je t'achète les quatre. Après, il y a le voisin du terrain A qui va venir, qui va dire, mais attends, comment tu as vendu à monsieur Intel, etc. En fait, moi, j'étais voisin et moi, je voulais ce terrain, etc. Je lui dis, mais tu comprends, c'est pas que je vais pas le proposer. C'est que, non, c'est pas que c'est indivisible, c'est que l'autre, il m'a pris un lot.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avec ça, j'ai tout vendu. Si je commence à lui dire, je te vends que trois terrains, que trois parcelles et pas quatre parcelles, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que dit la halakha? Celui qui prend le lot est toujours prioritaire, même s'il n'est pas voisin. Donc nous,
d'accord.
Étant donné qu'on est intéressé par tout le lot, par le sens littéral de la Torah, par le sens allusif, par le sens midrashique, et par le sens sod, par le sens ésotérique, donc comme on prend tout le lot, on est prioritaire. Parce que les anges, eux, ils ne peuvent pas être concernés par le sens littéral. Comme ils ne sont pas concernés par le sens littéral, et le sens allusif peut-être pas non plus, donc finalement ils ne prennent qu'une partie du lot. Donc même s'ils sont voisins, étant donné qu'ils ne prennent pas tout le lot, ils ne sont pas concernés. D'accord ? Ça, c'est encore un autre point. Maintenant, un sixième point. Hein. Sixième point. Et ça, c'est aussi un point très fort. Une halakha très intéressante, ça aussi. Si l'acheteur initial achète le champ parce qu'il passe par un moment difficile, et que le voisin veut l'acquérir juste pour élargir ses possessions, la loi du voisinage ne s'applique pas. En d'autres termes, imaginons que j'ai un terrain, et que je ne le vends pas à mon voisin, je le vends à monsieur A. Mais que pour monsieur A, ce terrain va lui sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation catastrophique, il a beaucoup d'appareils, il a beaucoup d'outils, mais il n'a pas de terrain. Et donc il a besoin de sauver sa parnassa. Donc pour la personne à qui j'ai vendu, ce terrain était vital. Alors que pour l'acheteur voisin, le terrain, mon terrain aurait été
du confort,
une augmentation de son patrimoine. Qu'est-ce qu'on te dit? Celui qui a un besoin vital sera toujours prioritaire à celui qui veut juste une augmentation de patrimoine. Or, les anges ont-ils besoin de la Torah? Non. Ils n'ont pas besoin de la Torah. C'est un confort pour eux, mais ils n'ont pas besoin de la Torah. Nous, les hommes, est-ce qu'on a besoin de la Torah?
Pour s'élever. Eux, ils n'ont pas besoin pour s'élever.
C'est un confort pour s'élever, pourquoi pas? Mais nous, les hommes, est-ce qu'on a besoin de la Torah? Bien sûr. Parce que le seul outil qu'Hachem nous a donné pour combattre les Tzerara, c'est quoi? C'est la Torah. Donc si on n'a pas la Torah, on est foutu, je m'excuse du terme, mais on ne peut pas fonctionner. Donc pour nous, la Torah est un besoin vital. Donc si la Torah est un besoin vital, on est prioritaire. Donc ce qui est intéressant dans ces commentaires, et encore une fois, vous verrez les références après, on a ici, voilà, le Rida à Bagdad, Salonique en Grèce, Mogador Maroc, Gour Pologne, enfin, toutes sortes de commentateurs avec
la
leur...
La goulette, unique.
D'accord ?
La goulette, non.
On a beaucoup... Non, la goulette, j'ai pas trouvé.
C'est moi,
on a beaucoup de commentateurs. Ça veut dire que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Et curieusement, dans tous les milieux. Milieu séfarade, milieu ashkenaz, tout le monde en a parlé.
On a eu peur qu'on nous...
C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre.
Ouais.
Pourquoi? Parce que la question est puissante. Donc, encore une fois, qu'est-ce que nous a expliqué le Chizkuni? Il nous a dit que l'argument des anges était basé sur la loi du voisinage. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On a eu six réponses possibles. Soit la Torah n'est pas un terrain, soit la Torah est un cadeau de Dieu, soit nous sommes les proches d'Hachem, soit Moshe aussi est voisin du ciel, soit que nous on prend tout le lot donc on est prioritaire, soit pour nous la Torah est un besoin vital donc c'est prioritaire. Tout ça, ce sont des belles réponses.
Un peu bancal, hein.
Le problème, c'est quoi? Deux secondes, laissez parler le texte. Le problème, d'accord. D'abord, sur chacune de ces réponses, on peut trouver des questions. On peut trouver des questions pour bloquer. Mais en plus de ça, il y a un vrai problème. C'est quoi le problème? Un problème de base. C'est que tout ce qu'on vient de dire ici n'est pas écrit dans la Gemara. Oui. La Gemara. Dans la Gemara, il y avait un argument de base. Les anges ont commencé par un argument. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la Torah qui est cachée, que tu as cachée tellement que tu l'as donnée à un être humain. Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu? Réponds-leur. Moshe Rabbeinu répond. Très bien. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur a répondu. Il leur a dit étiez-vous en Égypte, etc. Mais ça, cette réponse-là, étiez-vous en Égypte, étiez-vous chez Pharaon, avez-vous d'autres dieux, avez-vous besoin de vous reposer, avez-vous un père et une mère? Ça n'a rien à voir avec la loi du voisinage. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ça ici. Donc c'est un peu dérangeant, on repousse pas ces réponses, c'est des bonnes réponses. C'est-à-dire que dans l'absolu, dans l'hypothèse, l'argument est très bon. On peut comprendre qu'il y a eu un argument des anges et que sur ça, on répond de six façons différentes. Six déboutés différents, c'est intéressant. Pourquoi pas? Mais ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Aucune de ces réponses rentre dans les mots de la Gemara. La Gemara n'a jamais parlé de ça. La Gemara t'a donné un argument simple. Ils ont dit, pourquoi veux-tu donner la Torah qui a été gardée chez toi à des êtres humains? Et qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond à ça. Est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous étiez ça? Est-ce que vous étiez ça? Personne n'a répondu, la Torah n'est pas un terrain ou la Torah est un... C'est des belles réponses, mais la Gemara n'a pas dit ça. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de trouver une autre réponse. Une autre réponse pour expliquer pourquoi la loi du voisinage ne s'applique pas. Et cette réponse va rentrer dans le mot de la Gemara, c'est une réponse du rabbi qui va rentrer dans le mot de la Gemara. Et non seulement qui va rentrer dans le mot de la Gemara, cette réponse va nous permettre de comprendre quel est le fond du débat entre Moshe et les anges. C'est pas juste un débat technique, un débat juridique dans l'affaire. Il y a deux avocats qui se battent, mais en fait ils se battent sur les détails. C'est souvent comme ça les débats juridiques. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a un meurtrier en face de nous, on le sait, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que maintenant, en face de nous, on essaie de défendre l'indéfendable, défendre l'indéfendable. Mais là, le rabbi va expliquer qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qu'on a dit, ça tient la route, évidemment, mais on va aller plus loin. C'est pas seulement ici une question de forme. Est-ce que les anges ont raison? Est-ce qu'on est voisin ou pas voisin? Il y a un vrai débat de fond ici. Les anges sont en train de remettre en question, et de dire à Kadosh Baruch Hu, on ne comprend pas pourquoi tu veux donner ta Torah en bas. Alors là, je vais vous poser une question pour répondre, pour expliquer à quel point cette question n'est pas simple. D'après vous, la Torah est plutôt matérielle ou plutôt spirituelle? On va réfléchir, deux secondes.
Réfléchissez. Bah, elle parle beaucoup de matériel, en tout cas.
Je vous ai pas demandé, alors, écoutez bien ma question. Je ne vous ai pas posé la question à qui on a donné la Torah. Je ne vous ai pas posé la question de quoi la Torah parle. Je vous ai posé une question très simple. Si vous deviez définir la Torah en un mot, matériel ou spirituel, oubliez les arguments maintenant. Je pose une question, je veux une réponse, un mot. D'après vous, est-ce que la Torah est plutôt matérielle ou plutôt spirituelle? Il est évident que la Torah est plutôt spirituelle. Après, peu importe les détails, qui s'expriment dans les détails de téphiline, en peau de gueule, etc. Mais c'est clair que la Torah est spirituelle. Donc en fait, le fond du débat est le suivant. Le fond du débat, c'est que les anges disent, on ne comprend pas comment un outil qui est tellement spirituel, qui est tellement profond, tu décides de le donner à des êtres humains pour l'accomplir, matériellement. Et que la réalisation de ta Torah, spirituelle, se passera dans le matériel. Il y a un blocage, ça ne tient pas la route, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donner un exemple très simple. Imaginez par exemple que voilà, dans le monde, on a plusieurs sortes de personnes. Tu as des gens qui sont intellectuels et tu as des gens qui sont plutôt manuels. T'as des gens qui sont manuels, c'est très bien d'être manuel, mais t'as des gens qui sont vraiment manuels de chez manuel, c'est-à-dire qui sont vraiment analphabètes. Par définition, tu ne peux pas donner les mêmes objectifs à un analphabète et à un intellectuel, c'est pas possible. Donc imaginez que les intellectuels savent qu'il y a le plus grand scientifique de la Terre qui a un grand secret et qui le garde, un secret qui est breveté, qui est caché, qui est tout ce que tu veux, et il n'en parle à personne. Mais un jour, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent que ce grand scientifique, il a décidé de prendre ce grand secret et le donner aux analphabètes pour leur dire, eh ben voilà, vous allez donner des coups de marteau sur le mur et c'est comme ça que ça va s'appliquer mon secret. Les intellectuels vont être choqués. Ils vont dire, mais c'est quoi ce délire? On avait ici un intellectuel qui avait quelque chose de très profond, de très spirituel, et qui est sans fin, qui est profond. Et il le prend, il donne à des terriens, il leur dit, vous allez taper avec du marteau et c'est comme ça que vous allez faire ma volonté. Il y a un bug, c'est ton parent. C'est ça le fond du débat. Au-delà de la question, est-ce qu'ils sont voisins ou pas voisins, prioritaires ou pas prioritaires, c'est une bonne question. C'est un débat juridique. Le débat juridique, c'est un débat intéressant. Ça se défend. Mais il y a une question de fond ici. Quel rapport on a avec la Torah? C'est ça la question des anges.
Mais là, on va pas sans l'autre.
Oui, mais les anges, ils disent, on ne comprend pas comment cette spiritualité va atterrir chez les êtres humains. Qui certes vont en faire bon usage. J'en doute pas. Ils vont en faire bon usage, ils vont le développer, pourquoi pas. Je vais bien. D'accord? Mais les anges sont dérangés par la question. Ils se disent, mais quel rapport entre la Torah et les hommes? Quel rapport entre le spirituel et les hommes? Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Si on avait donné la Torah aux anges, ils ne pourraient pas l'exploiter comme l'homme peut l'exploiter et peut l'utiliser.
Ça, c'est vous qui dites. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais si, pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, alors?
Parce qu'on ne leur a pas donné.
Il fallait qu'ils la réclament, pourquoi ils l'ont pas réclamé?
Parce que c'est un secret. Chami leur a dit, je le garde.
Non, ils ont attendu que
c'est pas une réponse, M. Bonita. Excusez-moi. Non, c'est pas une réponse, ça.
Et qui lui, qu'ils n'ont pas eu avant nous? La Torah.
Ils ont une question de fond. Eux, ils se disent, tant que la Torah reste un trésor caché d'Hachem, pourquoi pas. S'il la sort et il la donne à son élite, pourquoi pas. Mais qu'il la sorte et qu'il la donne à des terriens qui vont l'accomplir matériellement, ça se passe pas.
Donner de la confiture, oui, bien sûr.
Donner de la confiture, vous avez dit oui. Voilà, bon, désolé, mais on n'est pas des cochons, mais
non,
voilà.
Mais non, l'homme par rapport aux anges.
Mais l'argument est bon. Donc là, ça, c'est finalement, c'est une question de fond, ça. C'est une question de fond des anges qui est très très bon. Ça veut dire qu'à la limite, la question est très bonne, parce que, à la limite, si Dieu avait donné la Torah aux anges, mais qu'il avait dit aux hommes, vous aussi essayez de la faire, c'est une chose. Ou bien encore, j'ai une autre hypothèse, si Dieu avait donné la Torah aux anges et aux hommes, et que chacun trouve son compte, pourquoi pas? Bon, les anges vont trouver leur compte, les hommes vont trouver leur compte, pourquoi pas? Mais là, que Dieu donne la Torah, n'oublions pas le terme donner. Donner. Ça veut dire que Dieu n'a pas seulement ordonné la Torah, il a donné la Torah. C'est-à-dire que le centre de gravité de la Torah n'est plus en haut. Il est en bas. Avant le don de la Torah, le centre de gravité était en haut. Depuis que Dieu a donné la Torah, il a pris le centre de gravité de la Torah, il l'a descendu en bas. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout tourne autour d'en bas. Et les anges l'ont compris, ça. Qu'avant le don de la Torah, le centre de gravité de l'univers était dans le ciel, le référentiel était le ciel. Et depuis le don de la Torah, le référentiel, c'est la terre. Les anges disent, mince, il y a un problème, là. Ça tombe pas rond. D'abord, on est voisins. Ça veut dire tout d'un coup, on se sent en second plan. Alors qu'on n'était pas en second plan. On était en premier plan. Tout se passait en haut. Maintenant, on dit, ah, c'est fini, tout se passe en bas. Et en plus, c'est pas logique. Ça tient pas la route. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, regardez. On va lire ensemble la référence numéro 4. Ça va être la clé de la réponse. Dans laquelle on va expliquer quel était l'objectif du don de la Torah. Le dit le Midrash. Lorsque Dieu a créé le monde, pour répondre à cette question, il faut revenir à la création du monde. Il faut se poser la question, quel était l'objectif de la création du monde? Pourquoi Dieu a-t-il créé son monde? Si vous venez au cours de Tania, vous connaissez la réponse. Quel est l'objectif? Dieu a voulu avoir une demeure ici-bas. C'est quoi une demeure ici-bas? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a voulu avoir un lieu, une résidence. Non, pas la secondaire.
Ah.
Une résidence principale dans laquelle il va habiter. Attendez, j'ai pas fini.
Il est partout, donc ça veut dire secondaire.
Attendez. On va expliquer. Laissez le texte parler.
Bah non, mais bon,
je vous comprends. C'est normal que vous insurgez. Alors, Ora Torah. Nous avons un commentaire de Ora Torah du Rabbi Tzemar Tzedek qui dit comme ça. Juste en dessous, référence numéro 4, deuxième partie. Pirouche dira, c'est quoi une demeure? Tu dis que Dieu voulait une demeure, c'est quoi une demeure? Zeush aliedeze shelimchar prinat atzmut avantzav baruch hu lemata. La demeure signifie que l'essence de la lumière infinie de Dieu intègre ce monde. K'mol derech machal. Dira shel adam shatzmuto mitgalaba ineye gilui lemata gamken. Où se trouve l'essence d'un homme? Où un homme se dévoile réellement tel qu'il est? Chez lui, à la maison. Tant qu'il est dehors, il y a toujours une façade. Il y a toujours une façade de ce qu'il montre.
J'aurais dit l'inverse, parce que la maison...
À la maison, il se lâche.
À la maison,
non, c'est pas se lâcher. C'est pas se lâcher.
La femme à la maison.
C'est que quand tu es dehors, t'as une façade. T'as une façade, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Il y a un monde autour de toi. Tu vis pour un monde autour de toi, tu évolues dans un monde autour de toi. Mais quand tu es chez toi à la maison, il n'y a pas d'autre personne. C'est toi. On donne souvent cet exemple d'un roi. Le roi, lorsqu'il est dehors, il va s'habiller avec des vêtements royaux, il a quelque chose à représenter. Mais le roi, lorsqu'il est dans sa chambre, il peut être en pantoufle. Mais il ne peut pas être en pantoufle dehors. C'est pas possible. Parce que dehors, il représente quelque chose. Donc, de la même façon, nous aussi, quand on est dehors, on représente quelque chose. Quand on est chez nous à la maison, on est nous-mêmes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que celui qui connaît le plus le roi, c'est qui? C'est le serviteur qui est en train de nettoyer la chambre du roi. Parce qu'il voit le roi. Il voit le roi dans ses situations les plus basiques et les plus élémentaires et les plus vraies en vérité. Les plus vraies. C'est là qu'il est vrai. C'est là qu'il est réel. C'est là qu'il est vrai. Ça veut dire que tu verras jamais, moi je verrai jamais le roi en train de dormir. Une posture très simple. En train de dormir. Comment il est quand il dort? Moi je sais pas de quoi M. Benita il est là quand il dort. Quand il est chez lui, dans son lit, qui s'allonge, je ne sais pas de quoi il a l'air. Mais c'est un moment, on comprend que c'est un moment qui est particulier quand on est dans sa maison. Dans sa maison, on est chez soi. Maintenant, il y a plusieurs maisons. Ta maison est demeure. Une maison, c'est une maison. On peut avoir une maison à Paris, une maison à Deauville, une maison en Israël, je vous en souhaite plusieurs, pas de problème. Mais quand on dit le terme demeure dans la Torah, il y en a une seule. Ta demeure, c'est la résidence principale. Ça veut dire que si par exemple t'as, bon, je m'excuse de l'exemple, mais si t'as par exemple une télé dernier cri pour regarder les vidéos du Rabbi, évidemment, télé 8K à acheter, dernier cri 3D pour acheter, etc. Et tu peux acheter une seule. Pour quelle résidence tu l'achètes? Pour la principale. Oui. Parce que c'est celle-là la même. Oui, c'est celle-là la principale.
Là où tu dis.
Voilà. Alors maintenant, voilà la question. Dieu a plusieurs résidences qui sont différentes. Il a des résidences en haut, avec les anges, avec un style particulier. Et il a des résidences en bas, c'est nous. Alors la question qu'on se pose, c'est quelle est la résidence principale de Dieu?
Ah oui.
Dans laquelle il veut être. Il est dans les deux, il est partout. Mais quelle est sa résidence principale? Parce que résidence principale, on peut en avoir qu'une seule, pas deux. C'est laquelle la principale? Alors nous, on serait tenté de dire, bah, c'est évident, puisque Dieu est spirituel, sa résidence principale est au ciel. Réponse du Midrash, c'est faux. Depuis la création du monde, Dieu a annoncé son programme. Il a dit, je vais créer un monde. Avec plusieurs niveaux spirituels, matériels, mais ma résidence principale, je veux qu'elle soit en bas. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ça a pris 2000 ans, parce que plus de 2000 ans, 2400 ans pour arriver au don de la Torah. Hachem, il a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Dieu, il a essayé le premier jour de la création, on l'a viré. On a dit, on a fauté, on l'a viré. D'accord? Petit à petit, ça a pris 2400 ans après, il est redescendu, etc. Après, on a refauté, il est reparti. C'est-à-dire qu'il y a un cache-cache qu'ils ont joué avec Kadosh Baruch Hu, mais Dieu a annoncé son programme depuis la création du monde. Il a dit, mon objectif, c'est d'avoir une demeure ici-bas. Et Dieu a dit clairement, il a dit, mon objectif, c'est que lorsque vous allez étudier la Torah, comment vous allez me prendre? Parce que tu me dis, mais c'est magnifique ce que tu me dis, mais comment j'amène Dieu? Il faut amener l'essence d'Hachem. Comment j'amène l'essence d'Hachem dans le monde? Par l'étude de la Torah. Parce que Dieu, il dit, comme c'est écrit dans le Midrash Rabba, Oti atem lokrim. Lorsque tu étudies la Torah, tu prends Dieu. Tu prends Dieu. Prendre Dieu. Donc ça veut dire qu'en vérité, Dieu avait annoncé son programme depuis le début. Même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens trouvent que c'est pas logique, et on comprend que c'est pas logique, parce que nous-mêmes on ne croit pas, mais Hachem a annoncé, il a eu un désir, c'est un désir qu'il a eu, de dire « ma résidence principale sera en bas ». Bon, alors maintenant il faut qu'on explique deux choses. Il faut qu'on explique comment avec ça on répond à l'argument du voisinage, et comment on fait rentrer ça dans les mots de la Gemara. Voilà. Et avec ça on va expliquer qu'est-ce qu'on répond à ça. Parce que n'oublions pas, on veut comprendre qu'est-ce que Moshe a répondu aux anges. Alors on va lire ensemble dans les mots la référence numéro 5. Et vous allez voir que tout va être clair maintenant. Shulchan Aruch. Aya rotze alokar yotal yitnodab batim. Uven ametsa rotze les or'a. Si l'acheteur initial voulait acheter ce terrain pour y construire des maisons, alors que le voisin, lui, il souhaite utiliser ce terrain pour de la végétation. Alokar zohe mishum mishuva aretz. L'acheteur initial conservera le terrain. Pourquoi? Puisqu'il contribue à installer la terre. V'en badin ametzer, et donc la loi du voisinage ne s'applique pas dans ce cas. Alors là, écoutez bien. Intéressant. On a dit que Kadosh Baruch Hu a eu envie de construire une demeure. Donc une demeure, c'est une maison. Qu'est-ce qu'elle te dit, la halakha? La halakha, elle te dit la chose suivante. Elle te dit, si moi j'ai vendu le terrain à monsieur A, et que ce monsieur A, il compte acheter mon terrain pour y construire des propriétés immobilières, des maisons. Et que le voisin, il dit, non, mais moi, je voulais élargir mon champ, je voulais avoir un champ plus grand. Pour élargir, pour avoir un champ plus grand, pour planter. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, celui qui veut mettre une maison, il est toujours prioritaire. La maison est toujours prioritaire par rapport au champ. Donc là, bien sûr, là, on a la réponse. Qu'est-ce qu'on dit aux anges? On dit, mais nous, on prend la Torah, c'est pas juste pour élargir notre patrimoine. Nous, on prend la Torah pour construire une maison. Quelle maison? La maison de Dieu. C'est la maison que Dieu veut construire.
Oui, mais il n'est pas constructible.
Attendez. Mais bien sûr, il est constructible. D'accord? Et donc, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse de Moshe Rabbeinu aux anges. Avec ça, on comprend la réponse. Avec ça, on comprend la réponse de Moshe aux anges. Si vous voulez, maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre la Guémara. On va reprendre la Guémara, référence numéro 1. Et vous allez voir qu'avec l'élément de réponse que je viens de vous lire, la Guémara prend une autre tournure. D'accord? Regardez. Bisha shala Moshe Lamarom. Non, au contraire. On repasse, mais là on fait une rediffusion pour revoir le but. Alors Bisha shala Moshe Lamarom. On est revenu pour revoir le but. Alors.
Quel numéro on est
revenu? On refait le match.
Monsieur Benita, quand il y a un but qui a été marqué, la caméra elle remonte, replay. Pourquoi elle remonte?
Replay.
On la connaît, on l'a vu le but. Alors, parce qu'on veut bien comprendre le but.
Différentes angles. Ils font même une émission pour discuter du match. On le connaît, le match.
On
le
ralenti et tout.
Arrête.
On veut le ralenti, on veut voir bien. On sait qu'il est rentré.
Il faut une heure après le match pour parler du match.
Chachala Moshe la Marom. Lorsque Moshe est monté au ciel, maintenant, regardez comment tout ce que je viens de vous dire est écrit dans la Gemara. D'accord ? Avec son expliqué. Chachala Moshe la Marom. Lorsque Moshe est monté au ciel, pourquoi il est monté au ciel, Moshe Rabbeinu ? Pour récupérer la Torah. Amrou, Malacha, Shared, Lifna, Kadosh, Baruch, où les anges servis ont dit à Dieu, Ribonoshel, le maître du monde, Maliloud, Isha, Benenou. Qu'est-ce qui fait cet homme, cet humain parmi nous? En d'autres termes, quel est le fond de l'argument? Ici, on est dans un domaine qui est spirituel. Qu'est-ce qui fait ce terrien parmi nous? Ici, c'est un monde spirituel. Qu'est-ce qui fait ce matériel ici? C'est ça le fond de la question. Quel rapport entre le matériel et le spirituel? À Marlem, qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Les Kabel Torah, bah. Il est venu pour recevoir la Torah. C'est-à-dire, eux, ils croyaient peut-être Hachem leur a donné 10 commandements, pas plus, je sais pas. Mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il leur répond à Hachem? Il a dit, ah non, mais il est venu pour prendre toute la Torah. Là, les anges, on comprend qu'ils s'insurgent. Puisqu'ils se disent, mais attends, ici, c'est une dimension spirituelle. En bas, c'est une dimension matérielle. Donc déjà, Dieu a commencé à donner un petit peu. Mais là, carrément, il veut tout donner, et Moshe est venu pour recevoir. Comment on disait à l'école? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est-à-dire que maintenant, Dieu, il va donner la Torah aux hommes. Il y a plusieurs, vous savez que dans la Halakha, on voit beaucoup de ça, que des fois, il y a même un débat entre les anges et Dieu. Et ils disent, on va voir ce qu'ils ont dit en bas dans la Halakha, en bas. Pourquoi? Parce que depuis que la Torah a été donnée aux hommes, le centre de gravité de la Torah est ici bas. C'est là que ça se passe. Donc et Dieu annonce ça aux anges. Il leur dit, les Kabel Torah bas! Il est venu pour recevoir la Torah. Ça veut dire quoi recevoir? Ça veut dire qu'ils vont prendre maintenant possession de la Torah. Maintenant, on comprend l'argument des anges. Amrou, les fans de la ville, ils disent, regardez dans les mots, tout est dans les mots. Chamuda Gnouza. La Torah qui est chérie et dissimulée. Ça veut dire quoi dissimulée? C'est quelque chose de profond que tu nous as gardé depuis tellement de temps. Atam et Vakesh, Knal et Bassar Vadam, tu veux la donner à des êtres chers en os. En d'autres termes, tu veux donner ton outil spirituel à des analphabètes. C'est même pas pour nous qu'on a un problème. C'est pour toi qu'on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse du terme, mais t'as pété les plombs. Qu'est-ce qui te prend? Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est une folie. Qu'est-ce que tu vas donner? Avec l'argument qu'on a dit, si déjà il fallait le donner, tant que tu dis que je le garde dans mes trésors, on pose pas de question. T'es Dieu, tu gardes. Mais le jour où tu décides d'ouvrir la salle des trésors, on est là, on attend tout le temps. Et en plus, a priori, on est ceux qui vont le mieux utiliser ta Torah, qui vont le mieux comprendre la sainteté de ta Torah. Parce que nous, on sait ce que c'est la sainteté, on sait ce que c'est la spiritualité. Donc donne-nous ta Torah, on en fera bon usage. D'accord? Ça, c'est la question que pose l'ange de Dieu. Maintenant, on comprend beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est pas juste une question, c'est pas moi, c'est la tienne, c'est la mienne. D'accord, on n'est pas à l'école. C'est une question profonde qui se pose ici. C'est qu'ils disent, mais la Torah est spirituelle, elle n'a rien à faire chez des hommes des êtres humains chers en os. Alors, tu vas me répondre, tu vas me dire, oui, mais, c'est vrai, tu vas me dire, oui, mais il faut que tu comprennes que la Torah, elle a plusieurs sens, elle a les sens profonds, et nous on comprend que le sens profond, pas le reste. Mais on connaît pas ces trucs-là. Tu vas donner la Torah à des hommes, ils vont la dévaluer. Ils savent pas ce que c'est cette Torah. Donne-la à nous. Nous, on va faire bon usage. On fera ce qu'il faut. Ça, c'est l'argument. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu ne répond pas à la question. Il dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas répondre à la question. Pourquoi toi? Parce que toi, Moshe Rabbeinu, comme tu es dans le matériel, donc c'est toi qui vas leur répondre pourquoi la Torah est matérielle. Comment il va leur répondre? Alors, on va lire dans les mots. Amar lo akadosh baruch hu le Moshe, arzer lehem tshuva. Dieu dit à Moshe, donne-leur une réponse. Amar lefanav, qu'est-ce qu'il lui dit? Ribono shel olam, maître du monde, qu'est-ce qu'il lui dit? D'accord? Il dit, Torah shetonetan etni, maktiva, la Torah que tu me donnes, qu'est-il écrit? Anochi Hashem elokecha asher otzitira meretz Mitzrayim. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En d'autres termes,
c'est nous.
Regardez le premier commandement. Regardez le premier commandement. Par quoi commence le premier commandement?
Il parle de nous.
Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Je sais pas, moi, je me serais attendu à autre chose. Si la Torah était surtout spirituelle, par quoi il aurait dû commencer? Il aurait dû commencer par, je suis le grand Dieu, le géant, etc. Après, dis-moi, je t'ai fait sortir d'Égypte. Mais c'est pas comme ça que ça commence. D'emblée, quel est le point de départ?
Le rappel.
C'est très important, le point de départ. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, les commerciaux font très attention à ça. Première phrase.
Il est choqué, là.
Ah ouais. Première phrase. Dieu, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe lui dit, regardez, il nous a parlé, qu'est-ce qu'il a dit?
Moi,
je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Sans oublier aussi que le bon Anochi est un terme en égyptien. Ça veut dire que là, vraiment, Dieu est grave descendu.
C'est vrai, ça nous dit directement.
Donc, il leur pose la question. Il leur dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est l'Égypte? Est-ce que vous savez ce que c'est Pharaon? En d'autres termes, est-ce que vous êtes concerné parce qu'il concerne Dieu, parce qu'il dérange Dieu, parce qu'il concerne Dieu? Non. Vous n'êtes pas concerné par ça. Je comprends votre argument, que vous dites que la Torah est spirituelle et qu'il faut la rester en haut. Mais vous voyez bien que la direction que Dieu a donnée à la Torah, c'est quoi? C'est une direction qui est clairement matérielle. Pourquoi? Parce que Dieu veut construire une maison. Dieu veut que la Torah soit matérielle. Dieu veut construire sa demeure en bas. Donc, il est prioritaire. Et après, il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur pose la question. Il leur dit, est-ce qu'il y a des idolâtres parmi vous? Il leur pose la question. Il dit, est-ce que vous avez du business? Est-ce que vous avez un père et une mère? Etc, etc, etc. Et là, les anges, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris, les anges? Que même si, dans l'absolu, ils avaient raison dans l'argument de base, que la Torah est spirituelle, mais on voit clairement que Dieu a donné une direction à la Torah. Elle a donné une direction matérielle. Alors, c'est très important ce qu'on est en train de dire, parce que je vais donner un exemple concret. Prenez, par exemple, l'exemple d'une personne qui va mettre les téphilines. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur, on est là pour la fin. D'accord? Une personne qui met les téphilines. Il met les téphilines? Non. C'est quoi les téphilines?
Un commandement. Texte de
non, non.
Commandement.
C'est quoi des téphilines?
Des lanières.
Des lanières, voilà. Des lanières. Non, mais quoi humer? Ah, non.
Oui,
non, non, non. C'est quoi les téphilines?
Du cuir.
Non, c'est que la principale, c'est le parchemin.
Il y a que de l'animal dedans. Tout est animal.
Ah oui, d'accord, oui.
Hein?
Non, le parchemin aussi.
Quoi? Oui, d'accord. Ça veut dire, le parchemin, c'est base animale. D'accord? L'encre, bon, l'encre, c'est végétal. Ensuite. La boîte, c'est quoi? C'est du cuir aussi. Du cuir qui a été tassé. Matériel, comme matériel. Donc, c'est ça finalement ce qui dérange. Finalement, ce qui dérange les anges, c'est ça. S'ils disent, on comprend pas comment tu prends je prends un exemple, hein. Une mitzvah comme elle était finie, qui est tellement belle, qui parle de la connexion entre une neshama et Dieu. Finalement, tu la résumes à quoi? Une lanière de cuir que tu vas attacher sur ton bras. Les anges disent, nous, tu vois, pour nous, les défis. La lanière, bon.
Mais nous aussi, on comprend pas, tu pourrais leur dire.
La lanière. À la limite, j'ai envie de dire, je préfère ne pas être lanière, tu me donnes un texte, je le lis, je parle, je décolle, je sens. Mais là, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que non, celui qui a mis les téphilines en pensée, mais pas en action, c'est-à-dire qu'il a pensé aux téphilines, mais qu'il n'a pas mis une lanière de cuir sur son bras, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Il n'a pas fait. D'un autre côté, celui qui les a mis comme ça, parce qu'un lobovitch lui a pris la tête, et il les a mis en 30 secondes, et il les a mis des lanières de cuir, maintenant la kavana y était, il a fait la mitzvah. Il a payé la kavana, il a fait la mitzvah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ça, en vérité, ce que Dieu a répondu aux anges par l'intervention de Moshe Rabbeinu. Le centre de gravité de la Torah n'est pas en haut, il est en bas. Le centre de gravité de la Torah n'est pas dans le spirituel, il est dans le matériel. Ça veut dire que la Torah va d'abord s'exprimer matériellement, et après on va essayer de la faire décoller spirituellement. D'abord la mitzvah, après la kavana. Pas d'abord la kavana, après la mitzvah. D'abord le matériel, après le spirituel. Ça, les anges ont eu du mal à le comprendre. Mais lorsque Moshe leur a montré clairement que par l'échantillon des 10 commandements que Dieu a donné, tu prends les 10 commandements de A à Z, du premier au dernier, tu vois bien que à chaque fois, Dieu a pris des choses, tu peux pas plus matériel que ça. Il a parlé de l'Égypte, il a parlé des idoles, il a parlé du père et de la mère, il a parlé du business, il a parlé de la convoitise, il a parlé du travail et du Shabbat, il a parlé de ne pas convoiter la femme de l'autre, il a parlé de ne pas convoiter le terrain de l'autre, il a parlé de choses qui sont vraiment terre à terre. C'est d'ailleurs une question que beaucoup de gens posent. Ils disent, mais je comprends pas. Si les 10 commandements, c'était un échantillon de toute la Torah, je sais pas, mais ils n'auraient pas pu trouver des commandements plus forts, plus spirituels. Vous prenez les 10 commandements, on est un peu déçus. C'est des commandements très très basiques, très élémentaires. La base, quoi. Tu ne tueras point, voilà. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Mais attends, dis-moi, c'est Dieu qui se dévoile, qui te parle. Dis attention, tu ne tueras pas, tu sais, ça va, doucement, je comptais pas tuer. Je sais pas, dis-moi une mitzvah comme soyez saint, ou je sais pas, trouve-moi un truc, vous aiderez votre prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une mitzvah qui est plus, je sais pas, qui est plus in, tu vois, qui est plus spirituelle. Une sorte de mitzvah élémentaire. Parce que Hachem voulait annoncer clairement la couleur, c'est ça la réponse de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est pas moi qui a décidé, c'est Hachem. Il nous a donné 10 commandements, on peut pas plus matériel que ça. Par ces 10 commandements, il nous a annoncé la couleur. Que l'objectif de la Torah, c'est quoi? C'est de la faire descendre ici-bas le plus bas possible. C'est pas pour vous. Si vous voulez, vous pouvez suivre la Torah d'en haut, pas de problème, suivez-nous. Mais ça se passe en bas. La Torah se passe d'abord en bas, et après, si vous voulez suivre en haut, vous pouvez suivre en haut. Ça, c'est la réponse. Maintenant, sur ça, je voudrais terminer en expliquant pourquoi la Torah doit démarrer d'en bas. Et on va terminer avec cette phrase très belle. Torah Or, dans la référence numéro 6, au milieu. D'accord? Pourquoi les anges ne peuvent pas atteindre ce niveau? Pourquoi ça doit passer que par les hommes? Pourquoi, pour construire la demeure pour Dieu, ça ne peut se passer qu'en bas et pas en haut? Pourquoi ça doit démarrer par matériel? Alors regardez, il donne un très beau machal, et ça va être le mot de la fin. Al derech machal. Chetzirir lagbiez et davar minaret, c'est le déclic lagba nikra l'hiver. Il donne un exemple intéressant. Lorsqu'on veut soulever un élément du sol avec un instrument que l'on appelle un levier. C'est quoi l'effet levier? Comment ça marche? Pour que l'effet levier marche, il faut que je cherche le point le plus inférieur possible de l'élément.
On est d'accord?
Ça veut dire que si par exemple j'ai un objet qui est là qui est très grand, mais que je veux m'arrêter au milieu de l'objet, je ne vais pas réussir à le porter. Pour que l'effet levier marche, je dois aller le plus bas possible. Et avec l'effet levier aujourd'hui, on déplace des maisons. Vous savez qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça, ils vous déplacent des maisons entières. Comment ça marche? D'accord? Ils vont aller en bas dans les fondations, et ils vont vous déplacer la maison, 1 km/h, mais ils vont vous la déplacer. C'est quoi le principe de l'effet levier? Je sais pas, il y avait un grand physicien qui disait, donnez-moi un levier, je peux vous lever la planète, ou je sais plus quelle phrase il disait, hein? C'est ça? Archimède. Je sais plus qui disait, Archimède, voilà, Archimède. C'est-à-dire que l'effet levier, c'est une idée qui t'explique que, quand tu as compris ce concept, que tu dois aller en bas, tu peux lever une voiture, tu peux lever une montagne, tu peux lever ce que tu veux. Quand tu as compris ce concept. La même façon pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça. Il te dit, pour élever toute la planète, tout l'univers, tout l'ensemble des rois la mode, des sphères, je ne peux pas prendre par en haut. Quand tu prends par en haut, c'est trop lourd, ça ne marche pas. Pour tout élever, tu dois chercher le point le plus bas possible et descendre en dessous de ce niveau-là, élever. Et là, automatiquement, quand tu vas élever depuis le point le plus bas, automatiquement, non seulement que le point le plus bas va être élevé, mais tout ce qui est en haut, même ce qui est en haut, va être élevé. Alors que si tu avais pris directement d'en haut, tu te dis, mais c'est pas grave, je suis très fort, je suis costaud, j'attrape. Ça marche pas. C'est ça la chorma de l'effet levier. La chorma de l'effet levier, c'est que c'est pas logique. Parce que toi, quand tu vois la chose, tu dis, j'ai un objet qui est là devant moi. D'accord? Je veux le lever, je vais le mettre de là à là. C'est pas logique d'aller en dessous pour le lever. La logique, c'est que je le prends ici et j'essaie de le lever. Je suis déjà là, je veux pas aller descendre. Mais ça marche pas. Comment ça marche? On te dit, pour que ça marche, tu dois descendre. Le plus bas possible. Une fois que tu es descendu tout en bas, c'est comme ça qu'on va lever. Alors, dit de la même façon, il dit l'Admor HaZaken, il dit que Moken, pareil, Nishmata Adam, Nitlapsha, Begouch, Yprila, Domem, Itertatum, Mikulam. Il dit, on sait très bien que dans les quatre éléments, c'est quoi les quatre éléments? Minéral, végétal, animal et l'humain. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il dit, la Neshama de l'homme, ce qui est le plus élevé, on va l'habiller dans ce qui est le plus matériel possible, dans du minéral, c'est-à-dire dans ce qui est inerte, dans du minéral aussi, d'accord? Dans ce qui ne bouge pas. On va l'habiller, l'homme va descendre le minéral. Pourquoi? C'est volontaire. Parce que Kadosh Baruch Hu dit, pour lever tout l'univers, c'est seulement quand tu attrapes par le bas. Il faut aller en dessous. C'est-à-dire que moi, quand je fais une mitzvah, et ça me rappelle le cours la semaine dernière, quand on a expliqué Yigaret Tachouva, que moi, quand je fais une mitzvah, moi, je crois que quand je fais une mitzvah, je me suis juste élevé à moi, j'ai mis mes tefillines. Tu te dis, c'est faux. Quand tu as fait ta mitzvah, tu t'es élevé à toi. Et tu as élevé tout l'univers vers Akadosh Baruch Hu. Même les sphères célestes se sont levées par ta mitzvah. Voilà la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe, réponds-leur, et que Moshe Rabbeinu a expliqué ça aux anges, ça c'est une bonne réponse, tu peux rien dire pour ça. Il a expliqué aux anges. Il leur a dit, voilà, regardez. Il dit, nous, en d'autres termes, il est en train de dire aux anges, vous allez gagner au change avec nous. Parce que nous, quand on fera une mitzvah, c'est pas que nous qui allons être élevés. C'est vous aussi qui allez être élevés. Et la seule façon de vous élever, c'est quand nous nous élevons. Et fais-le bien. Ça c'est la réponse. Dès que les anges ont entendu ça, Miyad Hodulu, la Kadosh Baruch Hu, ils ont accepté, ils ont dit, on a compris.
Et moi, les anges, ils ont posé une question, on a donné 1000 réponses.
Non, pas du tout. C'est qu'il faut comprendre, c'est les anges, c'est pas des rigolos.
Ah, ils connaissaient déjà la réponse.
C'est pas des gens qui sont parlé sur un coup de tête. Ils ont une réponse profonde. Question profonde, il faut une réponse profonde.
Vous voulez bien nous faire comprendre pourquoi elle descend.
Et d'où on tient tout ce discours?
C'est le Talmud qui raconte.
Marachabat, page 88, Babri.
Talmud. C'est la tradition qui raconte ce qui s'est passé. C'est Moshe qui nous a raconté ce qui s'est passé quand il était en haut. Pourquoi il a fait quoi pendant 40 jours? C'est ça ce qui s'est passé pendant 40 jours. Il devait négocier. Il devait chercher quoi? Ça prend combien de temps de chercher? Tu prends. Parce que d'abord Hachem devait lui expliquer la Torah. Et à part ça, il devait négocier. Les gens n'étaient pas d'accord. Il fallait que lui-même aussi il accepte cette notion. Que dorénavant, le centre de gravité de la Torah, le centre de gravité de la spiritualité n'est plus en haut, il est en bas. C'est dur à comprendre ça. C'est-à-dire, comment on peut comprendre ça? Que par exemple, une personne, il termine son monde ici-bas jusqu'à 120 ans, après on lui dit, tu montes en haut, dès qu'il arrive en haut, on lui dit, non, mais le but c'était en bas. Et lorsque ma chère va venir, le but sera en bas, tu redescendras en bas. Je comprends pas. Il dit, mais je comprends pas, c'est pas en haut le but? Non. Le centre de gravité n'est plus en haut, il est en bas. C'est ici que ça se passe. Seulement bon, quand une personne peut pas rester ici des millénaires, on dit, bon, tu es 120 ans, tu attends un stand-by en haut, et dès que ma chère vient, tu redescendras. C'est fou quand même. Parce que tout se passe en bas. C'est ça l'enjeu du don de la Torah. L'enjeu du don de la Torah, c'est que Dieu a déplacé le centre de gravité. Et ça change tout.
Tu travailles dans le Olam Hazé pour avoir ta récompense dans le Olam Haba.
Olam Haba, ça veut dire le monde à venir.
Le monde de la spiritualité.
Non.
Non.
C'est pas le monde de la spiritualité. C'est le monde de la spiritualité intégrée dans la matérialité. Ça, c'est l'objectif. L'objectif final. Lorsque Machia reviendra, on reviendra tous à la Terre.
Non, mais on va oublier Machia pour l'instant.
Mais non, mais on n'oublie pas.
Un homme qui meurt.
Oui, mais la mort, si vous voulez, c'est momentané, c'est une étape. D'ailleurs, quand vous avez tous les rabbins qui vous disent dans les cimetières, ils vous disent et on va le retrouver bientôt parmi nous. Oui. C'est pas juste pour donner des paroles de consolation qui va rien, c'est la vérité. On considère que la phase où on est dans le ciel, c'est une phase transitoire. Pour être nettoyé, pour faire ce qu'il faut, pour attendre. Tout le monde va redescendre. Tout le monde. C'est là l'objectif, c'est pas en haut. C'est là. C'est ça, les anges avaient du mal à comprendre. C'est ça ce que Moshe leur répond. Elle leur dit l'objectif, c'est en bas. Hachem a dit c'est en bas qu'on va construire. Et même quand on monte en haut, c'est pour redescendre en bas. Ben, là, on comprend.
On est déjà en bas, pourquoi monter?
Je vous souhaite d'acquérir ma chère de bonne vivant, si tu veux.
Pourquoi monter alors qu'on va redescendre?
Parce que des fois, on a besoin d'un petit coup de karcher.
Enculé pour mieux sauter.
Allez. Je n'ai pas spécialement besoin, si vous voulez.
Non, mais c'est bon.
Ça m'arrive. Voilà.
On démarre à